Bienvenue, bienvenue dans leur CV. Installez-vous confortablement. On va partir ça, cette émission-là, ensemble. Une heure, en fait, à explorer divers sujets d'actualité, puis humains aussi. Vous êtes dans leur CV avec Pascal CV, ça c'est moi. Et c'est le soleil à l'extérieur, donc c'est encore une journée assez magnifique, merci. Je croyais, parce que je vous avais dit hier, qu'il allait avoir un peu plus de nuages que ça. Mais somme toute, je sais pas, vous nous écoutez d'où, mais le ciel est pas mal bleu et assez découvert, merci. Par contre, ça prend la petite veste à 16 degrés en ce moment sur Québec et dans la grande région. 23, ce sera notre maximum aujourd'hui. Et dès demain, ben, c'est des retours aux températures estivales. 25 pour jeudi, 27 pour vendredi, samedi 27 également. On en profite avant la pluie qui semble trop radar à partir de dimanche. Bienvenue dans votre émission. Je dis votre émission parce que ben, vous êtes collaborateur régulier à leur CV. Puis je vais dire merci beaucoup à mon collègue Mathias qui est là en assistance parce que la radio a ses revers. Ça fait en sorte que quand tu es en studio comme ça avec vous, là, la gang, 88-971-1021, je vois déjà vos salutations ou encore sur Twitch. Il faut être un peu pieuvre. Puis ça, c'est quelque chose de vraiment le fun. Je sais pas si dans votre métier ça vous arrive. La gestion de semi pépin. Mais quand tu as des collègues comme les miens, ben, ça suffit pour passer une belle journée puis réussir à s'en sortir. Mathias qui sera avec nous assurément dans le bulletin de nouvelles aujourd'hui. Mais avant, un sujet qui attire énormément mon attention à chaque année parce que dans le contexte économique dans lequel on vit, c'est difficile. Hein? Faire des lunchs, mettre la nourriture sur la table, vous êtes nombreux à commenter continuellement à quel point l'épicerie s'en monte le prix qui est assez faramineux sur certains produits. Les tarifs imposés par Donald Trump dans le canage, dans le surgelé aussi, ça paraît vu l'emballage. Et ça, c'est assez fou de constater que souvent, c'est dans les aliments de première ligne. Les aliments de première ligne qui, habituellement, vont aider ces familles-là qui en arrachent un peu plus à mettre des choses nutritives sur la table. On a toujours un bon regard. Le club des petits déjeuners, moi, ça me rappelle mon grain là, avec ses grands yeux puis ses campagnes avec les tasses qu'on achetait dans les dépanneurs. Puis on pensait faire une grosse différence. Finalement, on se rendait compte que oui, parce que même quand tu achètes une tasse dans un dépanneur pour le club des petits déjeuners, avec une notoriété comme celle de M. Mongrain, ça fait en sorte que, crime, on en met des déjeuners sur la table de ces enfants-là. Mais auparavant, il y a quelques années, c'était quelque chose qui était un peu plus sporadique, hein? C'était plus niché. On pouvait identifier les enfants, c'est un peu plus facile de savoir qu'ils venaient d'une famille où on avait besoin d'une aide, qui était moins nantie. La nourriture, ben souvent, on sentait que c'était pas nécessairement la problématique première et principale dans une famille. Avec le temps, on se rend compte que pas mal toutes les familles sont touchées. Je sais pas pour vous, quel aliment vous trouvez qui a explosé et que vous attendiez pas du tout à une aussi grande hausse à ce niveau-là dans les derniers mois. Écrivez-moi ça au 88-971-1021 ou encore sur Twitch. Qu'est-ce qui vous a sidéré, là, que ce soit le chocolat, parce qu'on voit que le cacao, ben, le prix a explosé, puis on a commencé à chialer sur le prix en crèmerie, parce que deux cornets, 18 $, c'est pas ça qu'on voyait il y a quelques années. Mais il y a des aliments comme ça qui ont été haussés et qui nous surprennent. Dans divers contextes, on est capable d'établir là, pourquoi. Dans d'autres, assurément, il y en a qui se graissent la patte. Mais ça fait en sorte que notre tablé, là, ici au Québec, est d'autant plus cher. On se tourne vers des possibilités de jardinage, on se tourne vers des épiceries économiques. Il y a plein de reportages qui ont été faits là-dessus, mais c'est vraiment pas facile. Je pense que le club des petits déjeuners, tout le monde a donné une fois ou une autre à cette organisation-là. Et j'avais des données entre les mains dans les dernières heures comme quoi il y a plus de 99 000 enfants rejoints au Québec par ce club-là. Plus de 2000 ici, dans la capitale nationale. Fait que quand je vous fais la météo, puis je vous dis, ouais, alternance soleil-nuage, nanana, puis là, vous regardez le ciel, vous dites, ben oui, c'est ça ici, dans notre région, ben il fait beau. Mais ici, dans notre région, c'est pas juste un constat météo qu'on partage. On partage plus de 2000 enfants qui ont besoin d'aide pour manger le matin, pour aller à l'école et réussir à peut-être avoir la concentration qu'il faut pour leurs études. C'est un contexte qui est criant. Hier, vous m'envoyez des menus de cafétéria du côté de l'école secondaire, de l'école primaire de votre enfant. Puis vous me disiez pour certains que ça passe de 9 $ à 15,50 $. Ça fait une différence au bout de la semaine, au bout de l'année. Et vous m'aviez envoyé les menus aussi. Hein. Il y a des exigences, mais quand même, on essaie de faire le plus possible dans nos écoles. On va aller rejoindre une intervenante super intéressante à leur CV. Elle s'appelle Cindy Plourde. Elle est coordonnatrice au Club des petits déjeuners. Salut, Cindy.
Hey, bonjour, Madame Pascal. Quelle magnifique introduction vous avez fait là. J'ai l'impression que vous avez presque tout dit.
Non, je pense qu'on dit ce qu'on voit en surface et toutes les communications qu'on a avec les gens. Tu sais, la radio, on a un sentiment de proximité avec les auditeurs. C'est un média qui est rapide, qui a pas de barrière avec les commentaires de nos gens. Mais quand on vous parle, par contre, au Club des petits déjeuners, on se rend compte que la situation est beaucoup plus importantes qu'on pensait. Est-ce qu'on est rendu en 2025 à l'épiphanie, en fait, dans le contexte le plus difficile qu'on a connu du côté du Club des petits déjeuners?
Bien, c'est pas simple. T'sais, vous l'avez très bien décrit tout à l'heure, là, le contexte socio-économique. Les pressions sont multiples, s'accumulent. Les familles ont peine à joindre les deux bouts. Puis chaque matin, là, ce qui est important, là, c'est qu'il y a beaucoup trop d'enfants qui ont faim avant d'arriver à l'école. Vous avez parlé de chiffres, c'est inacceptable. Là, on rejoint, oui, peut-être 99 000 jeunes pour qui on fait la différence, mais reste qu'il y en a 180 autres 1000 qu'on essaie de rejoindre, pour lesquels on a besoin du financement pour rejoindre, qui aujourd'hui n'ont pas accès à un programme de déjeuner complet. Ça, c'est inacceptable.
Ça veut dire que... 180 000 jeunes. Ça veut dire qu'il y a environ plus de 99 000 jeunes qui sont rejoints par le Club des petits déjeuners, mais 180 000 autres jeunes qui sont listés ou qui encore ont levé la main pour adhérer à ce programme-là, pour en faire partie?
Qui sont situés, qui étudient aujourd'hui dans les écoles en situation de défavorisation, donc avec un 10, 8, 9 ou 10 là, selon le ministère.
On dit qu'un enfant sur deux arrive à l'école en disant qu'il a faim. C'est dans vos statistiques, ça, et c'est sorti dans les dernières heures. Est-ce que ça veut dire que c'est un enfant qui est en situation, justement, difficile à la maison économiquement parlant, ou c'est plutôt un sondage qu'on a fait à propos de tout et rien en posant la question à l'enfant « As-tu faim ce matin? »
Non, ce sont vraiment Statistiques Canada qui nous dit qu'aujourd'hui, il y a un enfant sur trois qui vit désormais dans un ménage en situation d'insécurité alimentaire. Et juste dans la dernière année, ça représente une hausse de 18%.
18%. Et ça, c'est dû au contexte économique, littéralement?
Oui, entre autres, les écoles nous le disent, ils nous affirment que l'accès à la nourriture ou la hausse des prix sont parmi les enjeux les plus importants pour eux, les plus urgents. Puis, vous savez, à Maine, on a près de 600, plus de 600 programmes là, dans la province de Québec. Et à Maine, ces 600 programmes-là, on a vécu dans les deux dernières années une hausse entre 20 et 30 % de demandes. C'est-à-dire que il y a 30 % de plus de jeunes qui s'inscrivent au programme de déjeuner déjà en place dans les écoles.
On peut se poser la question à savoir si l'organigramme sociétal est défectueux à un moment ou à un autre. J'explique, l'engrenage entre, par exemple, un agriculteur qui va perdre des récoltes, entre une épicerie qui va jeter des choses qui vont être périmées dans deux jours dans les bacs, puis on voyait des gens qui faisaient du dumpster diving, puis qui allaient fouiller dans les poubelles, puis qui le font encore en ce moment. Tu sais, y a-t-il un engrenage de plus qu'on pourrait mettre dans la courroie de transmission entre ces gens-là qui en ont besoin de denrées, de repas, de nourriture, et qui n'irait pas dans les poubelles, par exemple? C'est-tu si complexe que ça?
Bien, c'est super intéressant ce que vous dites, parce que nous, là, on croit que c'est vraiment les efforts de toutes les parties prenantes qui vont permettre aux jeunes là, d'avoir un jour une chance égale de réussite. Ça, c'est notre mission. Et depuis plus de 5 ans, on travaille l'engagement collectif que nous, on appelle. Donc, c'est une façon maintenant qu'on a de mettre des programmes en place avec déjà ce qui existe dans les milieux, avec les forces. Est-ce qu'on est capable de mutualiser? Est-ce qu'on est capable de travailler avec les organismes qui œuvrent déjà en insécurité alimentaire pour faire de la récupération, pour créer des circuits courts, tu sais, pour faire en sorte que on évite toutes ces gaspillages-là, puis on évite de se multiplier, de travailler pour les mêmes objectifs en bout de ligne. Est-ce qu'on peut mutualiser nos ressources financières, humaines? Ça, c'est super intéressant. Puis il y a déjà des beaux exemples qui sont mis en place à travers la province.
Parce que je ne vous cacherai pas que moi, j'ai une critique à cet égard-là. Est-ce que c'est une critique gouvernementale auprès du MAPAC, hein, le ministère de l'Agriculture, qui fait, entre autres, un genre de régie pour s'assurer que tous les aliments soient corrects et on donne de la nourriture qui est pas bon, qui met pas en péril la santé de quelqu'un. Puis des fois, je me dis, est-ce que c'est trop sévère? Parce que d'un autre côté, l'agriculteur qui travaille à la sueur de son front, qui va perdre des denrées, qui aimerait donc bien les donner, un producteur laitier, un producteur d'œufs, il y a sûrement quelque chose dans lequel on peut pousser plus fort, plus vite. Puis là, je ne mets pas ça sur vos épaules du tout, mais je me dis, où est-ce qu'il faut aller cogner et qu'est-ce qu'il faut changer?
Il faut se mobiliser, il faut se parler. Puis ce que vous êtes en train de dire, bien, on réussit à le faire dans certaines régions où est-ce qu'il y a des projets de glanage, des projets de rente solidaire, donc qui sont offerts à des organismes communautaires. L'organisme communautaire est capable de le faire parce qu'ils ont des projets de conditionnement, de récupération de nourriture, le transforme en muffin. Là, je vous dis muffin, ça peut être un autre aliment. Le transforme en muffin et via un transport communautaire est en mesure de le livrer à l'école. Donc ça, là, c'est génial, mais on commence. Ça fait à peu près 5 ans qu'on travaille de cette façon-là. Ça commence, mais nous, on veut plus être les seuls à porter ça sur nos épaules, vous l'avez bien dit. On veut plus que les familles soient seules à porter ça sur les épaules, le milieu scolaire non plus. Donc, c'est tout le monde ensemble.
Est-ce que vous sentez que vous êtes assez écouté? Parce que c'est sûr que vous portez ça au-dessus de votre tête depuis des années. Vous êtes associé à des personnalités publiques. Moi, j'ai dit en intro, M. Mongrain, ça m'a marqué les tâches j'en avais à grandeur dans la tablette chez mes parents. C'est quelque chose que toujours... Tu sais, je viens d'une famille de classe moyenne, mais l'alimentaire pour mes parents, c'était prioritaire. J'ai été toute ma vie sommée de partager, sommée d'être consciente de mon entourage, de savoir s'il y a un enfant qui ne mange pas, parce que la vision des gens qui m'entouraient, c'était « on construit la société de demain ». Puis il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là, des jeunes qui n'ont pas la même chance que tous et chacun. Est-ce que nous, on peut s'entraider? Parce qu'après tout, ça va être le filet social des prochaines années, ça va être nos travailleurs aussi, ça va être les gens qui vont être scolarisés, qui vont peut-être nous sauver en santé ou quoi que ce soit. C'est une conception sociétale, puis ça passe par l'alimentaire, puis on oublie souvent ça pour avoir des forces, pour être en santé au niveau du cerveau. Est-ce qu'on commence aussi à avoir ce discours-là un peu plus fort au sein d'organismes qui aident ces jeunes-là à manger pour qu'on comprenne que ça va beaucoup plus loin?
Bien, je crois que oui, parce qu'on commence à multiplier nos impacts. Mais vous savez, les impacts, c'est souvent difficile à mesurer.
C'est ce qu'on vous demande, en fait. Pouvez-vous nous dire les impacts que ça a, mais puisqu'ils sont difficiles à mesurer, il y a peut-être
Exactement. Donc, on travaille très, très fort à être en mesure de mesurer ces impacts-là au niveau de la société. Puis, vous l'avez bien dit, hein, c'est la relève de demain, c'est la relève d'aujourd'hui aussi, parce qu'on est présent dans les écoles secondaires. Donc, c'est des jeunes qui sont déjà sur le marché du travail, sont déjà très près de leur carrière. Donc, c'est super important. C'est super important de faire sa part collectivement, de donner. Puis vous savez, il n'y a pas de petits montants. T'sais, nous, on accepte vraiment tout parce que...
Ça veut dire quoi,
vous
ça?
Vous l'avez dit, chaque tasse a fait une différence un jour. Donc...
Vous ne voulez pas ramener cette campagne-là? Tout le monde a besoin d'une tasse à café.
Effectivement. C'est souvent le souvenir que les gens ont du club des petits déjeuners, M. Mongrain, la tasse.
Est-ce que, je vais poser une question qui est, bon, elle est aride là, comme question, mais de proposer des déjeuners à des enfants dans les milieux scolaires et tout ça, puis je comprends qu'elle est aride la question, mais elle est importante. Est-ce que ça déresponsabilise des parents de voir à ce devoir-là parental?
Ben, en fait, nous, on n'est pas là nécessairement pour juger le parent. T'sais, les raisons qui font que le parent inscrit ou envoie son jeune dans un programme de déjeuner sont nombreuses, sont au-delà de l'insécurité alimentaire. Là. T'sais, souvent, il y a des très, très longs trajets en autobus, des routines du matin, t'sais, les jeunes familles qui sont extra précipitées, le manque d'appétit. T'sais, moi, personnellement, j'ai eu 3 enfants avec lesquels je me suis chicanée tous les matins pour manger une petite rôtie. Donc, rendu à l'école, ils avaient accès au programme de déjeuner, ils venaient le bonifier avec soit un yogourt, soit un fruit. Puis pour le parent, pour moi, c'était rassurant. Tu sais, il y a des activités parascolaires. Puis aujourd'hui, les clubs de déjeuner, les écoles s'en servent pour créer un environnement favorable pour l'école, créer un lieu sécurisant le matin où, tu sais, souvent, là, ça évite de créer des situations peut-être qui auraient explosé dans la cour de l'école quand on parle d'intimidation, de chicane de jeunes. Là, ils sont assis ensemble, souvent dans une classe avec l'enseignant. discutent sur qu'est-ce qu'ils ont fait la veille, discutent entre amis, prennent un bon petit déjeuner, puis après, bien, ils sont prêts pour recevoir la matière.
En terminant, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'IDAM, que simple individu vivant en société pour vous aider? Ce sont des dons, ce sont des prises de parole, ce sont une implication quelconque, des implications quelconques?
On peut tout faire ça. S'il y a des gens qui ont le goût de faire du bénévolat via le site du Club des petits déjeuners, on peut s'inscrire. De faire rayonner le programme et l'importance. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut être porte-parole et défendeur de nos jeunes. Bien sûr, donner, c'est super important. Donc, on peut le faire via les campagnes de financement qui ont lieu très, très bientôt dans les Walmart, Costco, IKEA. C'est vraiment important. Puis, on invite vraiment tous vos auditeurs à faire un don. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y en a pas de petits dons. C'est pour nous, ils sont tous importants. Pour les jeunes, ils sont tous importants également.
Absolument. Puis là, de ce qu'on entend, c'est qu'on peut faire aussi du bénévolat si jamais ce n'est pas quelque chose qui est possible là, économiquement parlant. La situation n'est pas toujours facile pour tous et chacun, mais un enfant sur deux qui entre à l'école et qui dit qu'il a faim, plus de 99 000 enfants au Québec qui demandent à avoir un petit déjeuner rendu à l'école et plus de 2 000 ici, dans notre ville, dans la capitale nationale. C'est énorme.
Dans ma ville, 2 000 jeunes qui sont rejoints, mais il y a encore 2 000 jeunes à rejoindre.
Ici seulement dans la capitale nationale, imaginez. Merci beaucoup, Cindy Plourde, coordonnatrice du Club des petits déjeuners.
C'est plaisir. Au revoir.
Au revoir. Je vois déjà certains auditeurs qui disent « Ah, moi, je suis allée faire mon don en écoutant. » Mais c'est vraiment une situation difficile. Puis il y a des gens qui nous écrivent aussi pendant ce temps-là et qui nous disent « Ben moi, j'ai essayé avec mon entreprise d'aller porter des denrées des fois à certains endroits. » Puis surtout dans les milieux scolaires, peut-être que c'est l'embranchement qui est plus complexe. Je ne sais pas si ça a à voir avec le ministère de l'Éducation, le ministère des Pêcheries de l'Agriculture. Mais il y a des gens qui ont voulu faire des dons directement dans les écoles, puis ça a été compliqué. Peut-être passer par le club des petits déjeuners, mais il y a clairement un engrenage qui nous manque. C'est pas drôle pour des agriculteurs qui ont des pertes qui les jettent et pour des commerçants d'épicerie. Je sais qu'auparavant, quand on posait des questions pour les épiceries qui jetaient des choses encore accessibles pour l'alimentaire de tous et chacun, ce qu'on se faisait répondre, c'est que si on commence à donner ça, on perd de la valeur. Question mercantile, assurément, c'est à réfléchir. La roue économique, elle est très, très importante aussi. Mais chose certaine, si vous voulez faire du bénévolat avec eux, c'est le cas. Puis, tu sais, si vous avez des enfants ingrats, puis je le dis en me pointant, quand vous leur faites à déjeuner, comme disait Mme Plourde, j'essaie de faire manger une toast à mon enfant chaque matin, puis ça rentre pas, puis il n'y a pas d'appétit. Sachez que ma sœur et moi, on a été ce genre d'enfants ingrats-là où que nos parents se levaient plutôt pour nous faire à déjeuner puis qu'on trouvait ça bien épouvantable. Mais ça passe, puis on est bien reconnaissant en vieillissant. Puis peut-être que vous vous retrouvez là-dedans aussi. Je vous ai demandé quel aliment vous trouvez qui a augmenté de façon considérable, puis vous n'attendiez pas du tout à ça, au 418-971-1021 ou encore sur Twitch. Il y a eu plusieurs réponses. Entre autres, j'ai eu l'huile d'olive. Ça, c'est assez flagrant, oui. Oui, importation, exportation, plus difficile. Les viandes froides, ça a fait sursauter certains auditeurs. J'avais le café. Quelqu'un qui dit le café, là, moi, j'ai fait vraiment un saut. On s'entend qu'en plus, c'est notre huile de moteur pour adultes, là. Café, 2-3 fois, c'est entré. Donc, continuez de nous écrire ça au 88-971-1021. Puis, voyons ce qu'on peut faire pour la suite des choses le plus possible. Mais on pourrait militer pour le retour de la campagne de la tasse de café. Tu sais, une petite tasse de café achetée, là, dans le dépanneur du coin, puis qui fait une différence. On pourrait aller solliciter M. Mongrain de revenir et d'aller titiller notre fibre nostalgique à ce niveau-là. Et on revient dans leur CV. Dans un instant, ce sera Mathias qui va être avec nous. Mathias qui nous livre le bulletin de nouvelles d'aujourd'hui. Puis comme on se disait, lui et moi, avant l'émission, il y en a de la nouvelle. C'est pas un été commun en actualité. Émile Bilodeau dans leur CV avec ça va.
J'ai 6 cerveaux, en fait.
Leur CV avec Pascal CV.
Boulevard 102.1.
Des fois, j'ai l'impression qu'il faudrait avoir un genre de grosse poche à nouvelles, là, puis brasser ça, puis ressortir chacune de ces nouvelles-là, une à une. Je te dis ça, Mathias, parce que, Caroline, on a des dossiers qui explosent et qui sont très, très importants en la matière, là, qui impactent tous et chacun, mais aussi, c'est des dossiers qui perdurent dans le temps. Juste l'entente chez Air Canada, des vols encore annulés temporairement, on essaie de le reprendre, on est là-dessus depuis quoi, 2 semaines? Le caucus de la CAQ, la décrépitude du parti, on est là-dessus depuis 8 ans. Donald Trump, avec ses négociations, ben là, vous voulez qu'il négocie, OK, parfait, il le fait, mais est-ce qu'on peut en parler? Ben oui, certainement, mais vous voulez parler de la négociation avec lequel, de tous les dirigeants mondiaux avec lequel il entretient des conversations un peu étranges et quelque peu difficiles à colmater, finalement, en termes de possibilités de régler des conflits. Ah, mais certainement, ce qu'il va faire, jaser dans les prochaines heures, c'est des vidéos de réseaux sociaux. On en reparle dans un instant. Tout juste avant, ici à Québec, on se magasine toute une campagne électorale. Sam Ahmad est en feu, Bruno Marchand l'est tout autant. Mais là, Sam Ahmad, à qui on reprochait de ne pas présenter son programme, de ne pas présenter ses acolytes pour la suite des choses, commence à être un peu plus vocal.
Oui, exactement. Aujourd'hui, on a présenté deux nouveaux candidats pour l'arrondissement de Charlebourg. Je commence par Valérie Savard. Valérie Savard, qui est une ex-bloquiste, ça va en étonner quelques-uns, étant donné que Sam Ahmad, c'est un fédéraliste, c'est un ancien ministre libéral. Eh bien là, il accueille au sein de son parti Leadership Québec Mme Savard qui s'est présentée dans Louis Hébert pour le Bloc québécois lors des dernières élections fédérales. Elle tentera de devenir conseillère municipale dans le district des Monts, actuellement représentée par l'élu indépendant Éric Ralph Mercier.
Celui qui a été éjecté de la possibilité ouais. d'être au sein du parti de Sam Ahmad. On a eu M. Ahmad en entrevue avec M. Melançon dans les derniers jours, dans Marceau le midi. Puis on a posé la question, pourquoi vous n'avez pas pris M. Ralph Mercier? Et la réponse a été, c'est une bonne personne, mais ce n'est pas la nôtre.
Donc, en gros, on ne le voulait pas.
En gros, on ne le voulait pas, on l'a discarté. Je ne sais pas comment on se sent, parce que ça a mis la lumière quand même sur le candidat, mais oui. Par contre, il nous a aussi parlé d'une coalition. De plus en plus, son parti à M. Ahmad se définit comme étant une coalition de divers politiciens que lui trouvait compétents, que lui trouvait agréables à côtoyer, ou du moins jugeait que c'était de bons politiciens à amener au sein de son équipe. Donc, peut-être c'est pour ça qu'on ne se bat pas trop avec le fait oui, fédéraliste, oui, mais cette bloquiste-là qui ajoute à son équipe est connue. Je pense que le rouage derrière, bon, si elle est élue, ce qui l'attend, puisqu'elle le connaît, intéresse M. Ahmad.
Oui, 100%, elle a une grosse expérience, puis on veut continuer à faire du bruit, puis c'est quand même une grosse candidature, la deuxième, là, dans le district Saint-Rodrigue. On parle de François Baudet. François, qui est un ex journaliste sportif, animateur, annonceur des Jeux olympiques de Vancouver et Rio.
Mathieu s'en parle avec les étoiles dans les yeux, mais c'est parce qu'il se ramène au sport et non à la politique.
Impressionnant,
M. Baudet. Oui, il est très connu, c'est vrai.
Il est beaucoup connu dans le milieu sportif. Googlez son nom, puis je vous dis, son visage va vous dire de quoi. Donc, M. Ahmad, qui annonce deux de ses candidatures ce matin. La victoire dans Arthabaska profite pleinement au PQ, c'est ce que nous rapporte un sondage léger. On a sondé les Québécois sur les intentions de vote pour les prochaines élections provinciales. Du côté du PQ, on est à 35%, soit une hausse de 5% par rapport au dernier sondage. Le reste des partis sont quand même restés stables, sauf le Parti conservateur qui a connu une baisse de 4%. Donc on voit vraiment l'effet de l'élection partielle dans Arthabaska s'établir partout à travers le Québec. On disait que c'était une élection partielle importante. Bien là, on en a la preuve.
On va en parler avec Antonine Iaccarini ce midi, à 12h30, tapant dans Marceau le midi. Mais on va parler d'un autre dossier aussi, celui de M. Boileau. Ouh, il s'est pas fait une belle jambe, lui, dans les dernières heures. Est-ce que c'était... Au départ, tu te demandes si c'était de l'intelligence artificielle. C'est une conversation que j'ai eue avec Antonine ce matin. On s'est dit, ben voyons donc, mais grosse altercation entre lui et ce que j'ai l'impression de croire étant un trottinettiste électrique.
Oui, exactement.
Les trottinettistes de l'électricité là, sur nos pistes claires. Par contre, ils roulaient pas pire.
Ah oui, oui, ils roulaient vite. Puis c'est un trottinettiste qui roulait quand même assez rapidement. Puis à contresens, qui a coupé M. Luc Boileau, directeur de la santé publique, alors qu'il s'en allait traverser la rue.
On donne la faute, c'est sûr, au trottinettiste en partant.
Ouais, exact.
C'est une faute. Mais là, tu vois les caractères des deux hommes. Oui. L'affaire, c'est quel caractère de M. Boileau là-dedans aussi?
Ah oui, oui,
ça
oui.
Ça beaucoup jaser. Est-ce qu'on a écouté ça?
Vas-y
on
donc.
L'a, je pense, hein?
Ben là, t'es calice. Qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce qu'il y a? Peux-tu t'aider?
C'est débile.
Pourquoi? Pour quelle raison?
C'est débile, t'es promené à cette vitesse-là quand le monde...
Ben, je roulais à 20, man. T'as-tu joué à vitesse, mon hostie?
C'est-tu à qui tu t'adresses?
Mais toi, tu t'adresses à qui, là?
Directeur national de la santé publique.
C'est quoi le rapport?
Ils vont te trouver.
C'est-tu que t'es cave, toi? Tu parles pour qui, toi, mon hostie d'épais? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom?
Hey, t'as une crotte de nez qui dépasse.
C'est quoi ton nom?
Hey, c'est pas drôle d'être laid de même. Moi aussi.
C'est pas facile. T'as un petit problème, toi? Viens, t'as un. Viens! Tu crises un casse de bain, tu vas te battre, tu
sais. Ça se pogne, mais c'est... Écoute, la faute principale et première, c'est le trottinettiste.
100%.
Mais les deux ont un genre d'attitude déplorable. Ouais, avez-vous d'autres mots?
C'est exagéré, mais pour moi, je défends un peu Luc Boileau. Je me dis, hey, moi, je viendrais de me faire couper à pleine pine par une trottinette. Je serais pompé aussi. Moi...
Sauf que...
C'est plus ce discours de, tu sais-tu, je suis...
C'est là, ça dérape. Après, t'es bien laide, t'as une crotte de nez. J'avais l'impression d'entendre. OK. Parce que Marceau, des fois, me raconte ces histoires de gars qui jouent au hockey puis qui ont une soupape à faire, bon, sortir un peu d'air de tout ça, là, un peu de vapeur. Mais j'ai vraiment l'impression d'être dans une cour d'école.
Ah,
puis je me dis, quand t'as un statut de politicien comme celui-là, je comprends que t'es pas infaillible à toute émotion. Honnêtement, il a failli frapper des gens. C'était dangereux pour le trottinettiste. Mais la façon dont il scoltaille, la manière dont il dit « sais-tu à qui tu parles? » C'est là où on va renforcer une façon de voir les politiciens qui se permettent tout et rien par leur statut. Hey, moi, je suis le directeur national de la santé, donc je vais te trouver, tu vas l'avoir, ton amende. Sais-tu à qui tu parles? Ça devrait jamais sortir dans une discussion.
Ah, zéro. Puis d'ailleurs, Luc Boileau qui s'est excusé là, sur Radio-Canada hier soir, tard en soirée, il a dit « J'ai tenu des propos inappropriés. Je le regrette sincèrement. J'ai été surpris et secoué par une trottinette qui roulait à contresens, à vive allure, qui a brûlé un feu rouge et qui a failli me percuter. Je souhaite que cet incident rappelle l'importance de partager l'espace public avec prudence et respect. »
Des gens qui disent « J'ai pas entendu ça, juste pour vous, on recommence. »
Qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce qu'il y a? Peux-tu t'aider?
Débile.
Pourquoi? Pour quelle raison?
Parce que débile, t'es promené à cette vitesse-là quand t'as
monté. Ben, je roulais à 20, man. T'as-tu vu la vitesse, mon hostie?
C'est-tu à qui tu t'adresses?
Mais toi, tu t'adresses à qui, là?
Directeur national de la santé publique.
C'est quoi le rapport?
Ils vont te trouver, c'est
Est-ce que t'es cave, toi?
Tu
parles pour qui, toi, mon hostie d'épais? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom?
Hey, t'as une crotte de nez qui dépasse.
C'est quoi ton nom?
Hey, c'est pas drôle d'être laid de même. Moi aussi. C'est pas facile.
T'as un petit problème, toi?
On sait déjà que ça va être dans le bye-bye à la fin de l'année.
Ça, c'est sûr et certain. Je termine avec une mise à jour du côté de l'homme qui aurait touché des parties intimes de deux mineurs et une jeune femme au village vacances Val-Cartier. On dit du côté de la Sûreté du Québec qu'il aurait pu faire d'autres victimes. Donc, de 9h30 à 17h aujourd'hui, les policiers seront disponibles au camping Val-Cartier pour rencontrer toute personne qui aurait des informations pertinentes sur Carl Giroux, qui aurait justement, c'est un homme de 46 ans qui est présentement accusé d'avoir touché des parties du corps de deux plaignantes âgées de 12 et 13 ans le 16 août dernier et d'avoir agressé sexuellement une femme.
Tu l'as dit, ça c'est une histoire que j'ai envoyée à Marceau pendant notre émission hier midi, puis on a manqué de temps pour l'aborder, mais il y avait une publication qui avait été faite par la page Disparition et affaires criminelles québécoises. Puis là, on disait Val-Cartier sous le choc. Homme accusé d'agression sexuelle dans les piscines à vagues va rester derrière les barreaux. Comme tu dis, c'est un gars qui n'avait aucun antécédent criminel connu. Il a 5 chefs d'accusation d'agression sexuelle. On a protégé l'identité des victimes présumées. Elles sont toutes connues de l'accusé. Puis il y a eu une comparution assez tendue. Puis ça, on n'a pas eu beaucoup de nouvelles là-dessus puis d'informations. Mais devant le tribunal, le quadragénaire est arrivé visiblement ébranlé. Il a secoué la tête à plusieurs reprises. Et ce qu'on dit, c'est qu'on a quand même eu beaucoup de tensions dans la salle de cour. Les réactions du côté du village vacances Val-Cartier, c'est particulier aussi, en disant un événement comme ça, ça ne devrait jamais se produire. On offre tout le soutien aux personnes touchées. Le gars, en fait, c'était un gars de 46 ans, Carl Giroux, tu l'as bien nommé, qui aurait posé des gestes sexuels sur deux adolescents de 12-13 ans et sur une femme adulte aussi. Puis ça, c'était au cœur de la piscine à vagues du parc aquatique. Arrestation en plein divertissement. Donc, selon les informations recueillies, il a été expulsé du site tout de suite puis arrêté sur place. Puis ça a un peu créé la stupeur là, chez les vacanciers. Mais on n'aurait pas perdu de temps. On aurait déploré, on aurait décrié, on aurait demandé de la sécurité, puis on aurait bien réagi. Puis ça, c'est un point que je pense qu'il faut aussi surligner dans tout ça, parce que c'est pas quelque chose qui s'est déroulé sur plusieurs semaines et autres. Là. Tout de suite, là, on a eu le courage de dire « Voyons, c'est qui ça? C'est qui dans la piscine à vagues, là? Le présumé taponeux, là? Pas drôle, puis les images de l'homme roulent un peu partout.
Oui, action-réaction, puis dans un cas comme celui-là, je pense que c'était nécessaire.
Absolument. Merci beaucoup, Mathias. On te retrouve demain?
Yes!
Même heure, même poste.
Exact.
Plus, bien sûr, l'émission du matin, Boulevard Against le matin. Mathias qui en fait partie avec Max Larouche et Jeff Fortin. Courte pause après Corinne des Trois Accords. On revient dans leur CV, puis on va aller jaser de vos études. En avez-vous? Est-ce que vous avez un parcours qui vous a empêché de travailler avec le salaire qu'on vous devait selon les études? On va aller en jaser parce que étudier, c'est de moins en moins payant pour les hommes. Et ça, il y a des statistiques. Il s'embrasse des affaires partout dans l'actualité. Déjà, le fiasco SAQ Click, j'écoutais ça pendant les dernières minutes en direct. Là, on est dans la commission Gala, il y a des gens qui témoignent. Un proche de Bonnardel, entre autres, qui témoigne, hein, ministre François Bonnardel. Mais il y a des choses dans vos vies dont on ne parle pas assez souvent. Et déjà, vous êtes nombreux à réagir. Là, j'adore ce que je lis autant sur Twitch ou au 88-971-1021. Je vous demandais, est-ce que vos études ont servi? Est-ce que tout l'argent que vous avez investi dans vos études a fait en sorte que maintenant, vous avez une carrière, vous avez un emploi où on a remboursé ces frais-là et surtout, ça vous donne la juste mesure de votre investissement. Parce que souvent, on va encourager tout le monde à aller aux études le plus longtemps possible, puis on va valoriser tout ça. Mais il y a un article extrêmement intéressant qui est sorti ce matin, et puis je mets en lumière le travail qui a été fait du côté de l'Institut du Québec. Pourquoi? Parce que ce sont des données, des statistiques extrêmement intéressantes, mais c'est névralgique dans le contexte actuel de pénurie d'emploi, de difficulté à se relocaliser quand on en perd notre emploi, justement, et le taux de chômage qui est particulièrement élevé, des avantages salariaux qui sont de moins en moins intéressants et ça peut décourager qui que ce soit. Dans les statistiques de l'Institut, on apprend que c'est majoritairement les hommes qui sont touchés. Et là, on parle de chiffres, là. On ne parle pas de spéculation, vraiment des chiffres où les jeunes hommes ont de la misère à trouver un emploi dans lequel ils ont étudié et étudier devient de moins en moins payant pour ces hommes-là. Déjà, énormément de textos. On va revenir là-dessus à la fin de l'entrevue, mais je dois aller m'entretenir avec Simon Savard, qui est directeur adjoint et économiste à l'Institut du Québec. Bonjour, Simon.
Bonjour.
C'est fort comme étude en termes de relents que ça a créé parce que vous avez publié tout ça mercredi. Et c'est une étude, en fait, qu'on peut retrouver sur le site de l'Institut, mais vous y allez avec des données fort intéressantes. Premièrement, c'est clair, ça vise majoritairement les jeunes hommes qui ont un diplôme universitaire et pour beaucoup, ils sont au chômage. Comment est-ce qu'on explique ça?
Oui, bien, c'est à la fois inquiétant et surprenant à la fois parce qu'il n'y a pas si longtemps, en 2022, en fait, le taux de chômage des jeunes diplômés universitaires hommes était le même ou à peu près que celui des femmes, alors qu'aujourd'hui, il est 1,7 fois plus élevé. Faut remettre les choses dans leur contexte. Le marché de l'emploi est actuellement défavorable aux jeunes en général. On sait que il y a des tensions commerciales importantes, l'économie a ralenti et surtout, les employeurs ont nettement ralenti les embauches dans les entreprises. Ils ont aussi rayé des postes vacants, donc il y a beaucoup moins de postes à pourvoir dans les entreprises qu'avant. Et aussi, la population active, donc la population soit en emploi ou en recherche d'emploi, a gonflé notamment en raison de l'immigration temporaire. Donc, moins de postes à pourvoir, plus de gens pour combler ces postes-là. Donc, concurrence assez importante pour occuper les postes, surtout pour les jeunes diplômés. Parce que les jeunes diplômés, on le sait, ils ont moins d'expérience, moins de liens dans les entreprises. Pour eux, c'est plus difficile de se démarquer. Puis malgré, en fait, cette importante contraction-là du marché du travail, les femmes, en fait, semblent avoir tiré leur épingle du jeu. Pour nous, la raison principale qu'on voit dans notre étude, c'est que depuis 3 ans à peu près, la création d'emplois, environ la moitié des emplois créés au Québec l'ont été dans la santé, l'assistance sociale et l'éducation.
Là où il y a plus de femmes.
Oui, exactement. Donc, 70% des effectifs dans ces secteurs-là sont des femmes, donc ça a avantagé les femmes en quelque sorte.
Mais c'est fascinant de voir, puis vous l'avez effleuré dans vos explications là, au courant des dernières secondes, que plus un homme a étudié longtemps, moins il a été rapidement sur le marché du travail. Donc l'expérience, le CV, ben, il est beaucoup plus court parce qu'il s'en tient qu'à ses études. Et ça fait une différence. C'est ce que j'entends de votre discours. Est-ce qu'on est de retour à ces jeunes-là qui travaillaient temps plein et qui étudiaient temps plein versus un jeune qui ne fait qu'être à l'école temps plein en termes de valorisation en disant « va te chercher de l'expérience aussi aux professionnels en même temps »
Ben à court terme peut-être, puis c'était peut-être plus le cas il y a justement 3 ans lorsque c'était le sommet des pénuries de main-d'œuvre et où est-ce que les employeurs s'arrachaient les employés et embauchaient des travailleurs qui ne détenaient pas nécessairement les qualifications. On sait aussi que l'avantage salarial d'avoir un diplôme universitaire a reculé chez les jeunes hommes comme chez les hommes chez les jeunes femmes, mais encore plus chez les jeunes hommes. Par contre, à plus long terme, on voit quand même qu'il y a un avantage salarial de détenir un diplôme universitaire. À l'âge de 45-49 ans, l'avantage salarial pour les hommes est de 62 % par rapport aux hommes qui n'ont pas de diplôme, en fait. Donc, le fait d'avoir un diplôme universitaire, ça a quand même une incidence très positive sur les salaires, mais pas seulement sur les salaires. On le sait aussi qu'il y a plusieurs études qui ont montré ça, notamment chez Statistique Canada, que lorsqu'il y a un ralentissement économique, lorsqu'il y a une récession, lorsqu'il y a des changements technologiques dans l'économie, c'est plus facile ou ceux qui ont des diplômes universitaires, entre autres, diplômes d'études supérieures, c'est plus facile pour eux de se replacer, de se requalifier parce qu'ils ont déjà des outils en main pour le faire, ont plus le réflexe d'aller se requalifier, ont des compétences qui peuvent être davantage, transversales, qui peuvent se transférer d'une profession à l'autre, d'une industrie à l'autre, alors que quelqu'un qui n'a pas de diplôme ou a décidé d'abandonner ses études en cours de chemin, va être beaucoup moins outillé justement lorsqu'il y a des soubresauts en fait économiques comme on le voit actuellement. Donc c'est un certain couteau à double tranchant.
Ouais, il y a beaucoup de commentaires là-dessus, entre autres quand tu te fais offrir une job super payante à 18 ans, ça peut être alléchant. On fait une mini parenthèse sur les jeunes qui s'en vont dans le crime organisé parce qu'ils font des sous très très rapidement puis finalement ils regrettent tout au long de leur vie. On revient maintenant au marché du travail, mais ça a été longtemps valorisé. Les études, plus tu allais loin dans tes études, mieux tu étais vu en société, tellement qu'à un moment, les gens qui allaient faire des DEP, des DES, c'était comme si c'était des gens qui n'avaient pas nécessairement d'ambition dans la vie. Finalement, avec le temps, ces gens-là, ils ont réussi bien souvent à faire beaucoup plus d'argent que quelqu'un qui est allé jusqu'à l'université. Et là, je parle parce que je viens d'un contexte où les études sont nettement valorisées. On nous a encouragés toute notre vie parce que mes parents en avaient très peu. Puis pour eux, c'était une clé au succès. Pour eux, c'était une clé à l'ouverture de porte. C'était pour s'assurer d'avoir une belle vie, de manquer de rien. Mais avec le temps, on se rend compte que le travail terrain a une valeur grandissante et extrêmement recherchée. Il y a des patrons qui même font des offres d'emploi maintenant pour un métier spécialisé ou en écrivant « si tu n'as pas d'expérience, c'est pas grave, on te le montre ». Puis il y a même des patrons qui préfèrent ça pour mettre l'employé un peu à sa main, puis selon la façon dont l'entreprise roule. Ça, là, on ne voyait pas nécessairement ce genre de discours-là il y a 20 ans.
Ben moi je ferais surtout la différence entre le fait de ne détenir aucun diplôme puis ensuite de ça de l'autre côté soit détenir un diplôme d'études professionnelles, tu sais, qui mène à un métier, puis il y a plusieurs métiers en demande au Québec encore aujourd'hui, même si les pénuries de main-d'œuvre généralisées comme on l'a connu, c'est beaucoup moins le cas, il y a encore des métiers pour lesquels où est-ce qu'il y a des pénuries tenaces, où est-ce qu'on a de la difficulté à recruter, mais qui nécessitent quand même des qualifications et qui ne sont pas nécessairement universitaires. Puis même, il y a des études qui montraient que le fait d'obtenir un diplôme d'études professionnelles versus l'avoir abandonné en cours de route et d'occuper un emploi qui est apparenté à son diplôme d'études professionnelles, ça menait à des salaires qui étaient beaucoup plus faibles que le simple fait d'avoir terminé son diplôme. Parce que le fait d'avoir un diplôme, que ce soit un diplôme DEP ou universitaire, ça envoie un signal aux employeurs. Ça envoie un signal comme quoi la personne, elle a accompli son diplôme, elle a mené sa certification jusqu'au bout. Puis ça, ben, c'est quelque chose d'assez garant. Puis dans un contexte où actuellement il y a très peu d'embauches dans le marché du travail au Québec, ben ça peut être tout simplement en fait une différence qui peut faire en sorte que ben la personne qui a pas de diplôme va avoir beaucoup moins de chances en fait au niveau du recrutement et de la possibilité de se trouver un bon emploi sur le marché du travail et surtout à la hauteur de ses aspirations.
Après cette façon-là de le ventiler, je vais mettre un petit peu de surligneur sur le fait de se rendre aux études universitaires parce que ça, c'était pas tout le monde qui était capable d'y accéder financièrement ou encore par la cote et par le programme que ces gens-là visent aussi. Ce qu'on a calculé de votre côté, là, à court terme, c'est que les hommes sont 25 % moins nombreux que les femmes à détenir un diplôme universitaire et ils étaient 26 % plus nombreux en 90. Il y a vraiment un inversement des sexes au niveau de l'université puis de la diplomation. Pour ce qui en est des programmes un petit peu plus manuels dans certains cas, des DEP, des 3 ans, des ci, de ça, assurément que ça va donner toutes les capacités pour exercer un métier. Souvent, c'est un peu plus niché. C'est même assuré de savoir vers où on se dirige par la suite après ces études-là. Des fois, les études universitaires, c'est un petit peu plus at large. Hein? C'est général. Tu sors de là, tu peux faire certaines affaires, mais c'est pas toujours extrêmement précis. Il y a le fait aussi qu'on entend de plus en plus que quand tu te rends jusqu'à l'université, tu coûtes trop cher à un employeur dans le contexte actuel et tu vas peut-être être laissé de côté. Est-ce que vous avez pris cette façon de faire-là, ou du moins cette rumeur-là qui est constatée, là, bien sûr, là, à certains endroits, c'est un fait, sur le marché du travail?
Bien, chose certaine, c'est ce qu'on voit actuellement, puis surtout dans la région de Montréal, où est-ce qu'on a des taux de chômage chez les jeunes diplômés qui est au-delà de 10 %, c'est pas normal. Donc, normalement, si vous êtes une personne qui obtenait un diplôme universitaire dans une université québécoise et essayez d'avoir un premier emploi, que ce soit comme stagiaire ou comme emploi d'entrée, normalement, vous devriez avoir accès à un emploi qui est à la hauteur de vos qualifications. Parce que les alternatives, ben, c'est ce qu'on a vu notamment lors de la récession de 2008. C'est qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont tout simplement décidé de continuer leurs études. Mm-hmm. Certains ont accepté un poste pour lequel ils sont surqualifiés. C'est un peu ça la mauvaise nouvelle. D'autres se retrouvent en situation de recherche d'emploi, donc vont gonfler les statistiques de chômage. Mais ce qu'on n'avait pas en 2008, qui est beaucoup plus présent maintenant, c'est une population en âge de travailler qui a beaucoup plus augmenté dans les 2-3 dernières années, en particulier dans des postes d'entrée dans le marché du travail, chez des étudiants étrangers. Puis là, tu sais, comprenez-moi bien, c'est pas les personnes individuellement qui causent le problème en tant que tel, mais c'est vraiment un déséquilibre dans le marché du travail qui s'est créé. C'est entre autres pour ça que les gouvernements actuellement font marche arrière et mettent des cibles au niveau plus restrictives, au niveau de l'immigration temporaire. Donc, on est en train collectivement d'adresser ces problèmes-là. Mais en attendant, quand même, ça fait en sorte que certains ne peuvent pas débuter leur carrière convenablement. Puis ça, ça pourrait avoir des impacts à plus long terme.
En terminant, on va finir l'émission ensemble, l'heure CV. Il nous reste 1:30 environ. Monsieur Savard, vous êtes directeur adjoint et économiste à l'Institut du Québec. Est-ce qu'il faut se poser la question et retourner à peut-être les années 70, 80, où on choisissait pas nécessairement ce qu'on allait faire par passion, mais par perspective d'emploi pour la suite des choses? Est-ce qu'on va retourner dans un courant comme celui-là pour la prochaine décennie, où c'est pas nécessairement la passion ou l'intérêt qui va te guider, mais plutôt le nombre de postes qui sont à pourvoir?
Je pense que avant tout, la décision de poursuivre ou non des études supérieures, c'est une décision qui est largement individuelle. Ça se limite pas seulement à une simple question de rentabilité. Parce que, tu sais, comme vous savez, vous en connaissez probablement dans votre entourage aussi, des gens qui prennent ces décisions-là pour des décisions financières, mm-hmm. des questions financières qui finalement sont malheureux dans leur...
C'est sûr, l'indice bonheur est important, mais pour la suite des choses, ouais. pour être sûr d'avoir un emploi en 20 secondes, ce serait-tu quand même un contexte à explorer, malheureusement?
C'est certain qu'on doit t'sais, davantage explorer, regarder un peu c'est quoi les genres d'emplois qui vont être en demande dans les dans les prochaines années. C'est ça, exactement. Mm-hmm.
Merci beaucoup, Simon Savard, directeur adjoint économiste à l'Institut du Québec. Très intéressant votre étude qui est disponible sur le site de l'Institut.
Ça fait plaisir, merci.
Une bonne fin de journée. Vous avez été nombreux à envoyer des textos, entre autres. Moi, j'ai une maîtrise et la plupart de mes amis qui ont un DEP ont des salaires plus importants. Certains, ben, nos salaires annuels se ressemblent, mais la différence, c'est que je fais beaucoup moins d'heures, 37,5 par semaine en termes d'heures. Et eux travaillent beaucoup plus souvent le soir, les fins de semaine. C'est aussi beaucoup plus compliqué pour eux de prendre des congés. Donc, mes conditions sont vraiment meilleures. Quelqu'un qui nous dit... Ici, c'est ma fille qui est plus jeune, qui a un DEP, qui gagne bien sa vie alors que son frère a fait un DEC et le salaire est moins bon. On a des situations comme ça qui nous sont données, en fait, par texto. Mais c'est vrai que l'indice bonheur versus l'indice de travail, il est où l'équilibre? Parce que pour plusieurs générations, moi, la mienne, 31 ans, mes parents ont travaillé comme des forcenés. Puis avant mes parents, mes grands-parents, il n'y avait aucun choix sur leur emploi. Là. C'était si c'était libre, on le prend. Et probablement qu'on y fait carrière parce que c'est notre option. Et il faut nourrir notre famille, être capable de s'acheter une maison. Les contextes sont fascinants. Continuez d'écrire sur Twitch ou encore au 88-971-1021. Excusez-moi, j'ai comme un relan dans mon oreille avec mes écouteurs. Mais on revient dans un instant avec Marceau le midi. Yannick s'en vient. Donc, on va passer l'heure du lunch ensemble. Puis c'est sûr qu'on va rééplucher tout ça. Super intéressant de vous entendre là-dessus. Merci d'avoir été dans l'heure CV. On se retrouve demain 10h.